France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
À la base, si on revient d'un point de vue historique, la fondue, c'est le fond de frigo. C'est le but de prendre tous les restes de fromage.
Nous, on utilise ici vraiment le gruyère AOP et le vacherin fribourgeois AOP.
Un plat hyper emblématique. En 2020, le consortium international des émojis a ajouté l'émoji de la fondue. L'hiver, c'est un terme qui est plus recherché sur Google au niveau mondial que hamburger. Ça va bien au-delà de nos frontières.
Son pain dans la fondue, un gage.
Mais elle est pas épaisse là.
Chacun sa recette et son fromage. Et la fondue est quand même suisse.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Attention, aujourd'hui, on plonge dans le caquelon pour un sujet hautement sensible. Un sujet qui fait parfois perdre aux Suisses leur traditionnelle neutralité et leur esprit de tempérance, c'est la fondue fromagère. Qui, de la Suisse ou de la France, peut vraiment en revendiquer la tradition et la paternité? Comment se pratique la fondue au fromage des deux côtés des Alpes et avec quel fromage d'ailleurs? On va tenter d'y voir plus clair avec nos reportages et nos invités. Je suis allé personnellement enquêter sur le terrain du côté du canton de Fribourg en Suisse et on en parle avec nos invités qui connaissent à fond la fondue. Fabrice Geppner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes connu sur les réseaux sociaux sous le nom de...
Le Cheese Geek.
Le Cheese Geek. Vous êtes spécialisé depuis de nombreuses années dans le fromage. Vous avez une expertise incroyable. Moi-même, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises. Vous organisez aussi des ateliers de dégustation pour le grand public et les entreprises pour mieux leur faire découvrir tous les patrimoines autour du fromage, c'est ça?
Oui, exactement. L'idée, c'est d'en apprendre plus sur le fromage en s'amusant avec des dégustations à l'aveugle, des jeux, des quiz. Il y a même du dessin et de la méditation. Et l'idée, c'est d'en apprendre plus en s'amusant.
Un détail important, cher Fabrice Geppner, vous êtes franco-suisse. On vous soupçonnera absolument pas de favoritisme. Vous avez en effet des origines du côté de Bâle, je crois.
Exactement. Ouais. Du côté de ma mère, ils sont tous balois.
C'est ça. Et dans un souci d'apaisement, vous avez spécialement inventé pour nous une recette que vous allez nous révéler dans ce studio. C'est... Comment vous allez l'appeler ?
La fondue franco-suisse, simplement, ou la fondue du bassin alpin.
C'est ça. On pourrait même l'appeler la fondue de l'armistice.
Pourquoi pas ?
Pour arrêter cette guéguerre entre la France et la Suisse. Loïc Bienassi, bonjour !
Bonjour !
Vous êtes notre historien maison, rattaché à l'IEHCA, Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation. Vous dépendez de l'Université de Tours. Les origines de la fondue, les ambiguïtés du mot fondue. Vous avez démêlé les réalités complexes de cette spécialité que vous aimez beaucoup par ailleurs, je crois.
Tout à fait. Bon, dès qu'il y a du fromage, globalement, je suis un homme heureux.
Bilan de vos recherches ?
Bilan, je le dis d'emblée ?
Non, mais en tout cas, est-ce que c'était dur ou comme d'hab?
Là, je trouve qu'il y a pas mal de choses sérieuses qui sont écrites sur la fondue, qu'on y voit assez clair quand même, bon. Avec des petites zones d'ombre, mais ça va.
Eh bien, vous allez nous donner le fruit de vos recherches tout à l'heure. Notre chroniqueuse Justine Knapp pour nous accompagner, on en est ravis. Bonjour Justine.
Bonjour.
Alors, dans nos verres
deux choses aujourd'hui, une grande balade dans les Alpes et des vignes dans le ciel.
Ah, on va voir ça. Il y a déjà de belles bouteilles sur notre plateau. Interagissez en direct sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com ou sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus et les infos pratiques de notre émission, franceinter.fr à la page. On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Et oui, entre la France et la Suisse, deux pays amis et frontaliers, c'est... la guerre des caquelons. Des deux côtés des Alpes, on pratique la fondue fromagère avec verve et conviction. Mais qui, de la France ou de la Suisse, peut en revendiquer, comme je le disais, la paternité ou le savoir-faire? Alors, vous avez une lourde responsabilité, cher Loïc Bienassi. Attention, vous pouvez à tout moment déclencher un incident diplomatique. Bon, France, Suisse, on penche de quel côté pour la fondue?
Je sens le poids des Alpes sur mes épaules. Non, je crois que les choses sont quand même assez claires. On peut dire que la paternité revient à la Suisse.
Ça, c'est fait.
Mais je crois qu'il faut l'admettre. La plus vieille recette à tester, à moins qu'on en trouve une autre, mais date de 1699 dans un manuscrit de Zurich, un manuscrit culinaire, et on a une recette pour cuire le fromage avec du vin. Et c'est une recette, j'allais dire, assez moderne de fondue, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Alors par contre, On est en Suisse alémanique. Et en dehors de ce manuscrit, de ce texte, on ne sait pas très bien de ce qu'il advient, de qui consomme cette recette, de ce qui n'est pas encore appelé fondue, d'ailleurs, donc de ce fromage cuit avec du vin. Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut vraiment retracer l'histoire, il faut plutôt regarder du côté de la Suisse romande. On parle souvent de la région de Neuchâtel, quoi qu'il en soit. Ce qu'on voit, c'est clairement au cours du 19e siècle, apparaît la recette de la fondue moderne. On a les premières recettes à la fin du 19e siècle, clairement. Là, on a ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce qui est aussi clair, c'est que c'est plutôt, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un plat urbain et un plat bourgeois. Et non pas un plat des Alpages,
paysans,
justement.
Dans le chalet de Heidi, quoi.
Exactement. Ça semble assez sûr. On a donc différentes recettes qu'on trouve ici et là. Et la Suisse alémanique, justement, elle va être conquise plus tard, plutôt dans l'entre-deux-guerres. Et là, on a un plat qui devient, à partir de l'entre-deux-guerres, à partir des années 30, vraiment un plat national. C'est la construction d'un plat national. Et derrière ça, parce que voilà, on n'est pas juste dans les sphères du plaisir gastronomique, il y a sans doute aussi des intérêts économiques. Parce qu'on se rend compte finalement qu'il y a notamment l'Union Suisse du commerce du fromage qui pousse derrière, parce qu'il y a des excédents, il faut consommer, que la fondue, c'est évidemment un plat qui permet de consommer du fromage, et qu'il y a aussi une sorte de volontarisme économique derrière, dans l'entre-deux-guerres, donc, pour faire de la fondue cet emblème culinaire national.
Fabrice Gebner, vous êtes suisse par votre maman. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que la fondue a un statut de plat national en Suisse ?
Ah, complètement, oui. Complètement. C'est un plat que toutes les familles suisses vont manger aujourd'hui.
Et pas seulement en hiver, d'ailleurs.
Et pas seulement en hiver. En été, ça se mange beaucoup en alpage, pour le coup. Mais voilà, ce qu'on dit même, c'est que c'est une fondue par semaine pour les Suisses. Donc, on peut clairement parler de plat national, oui.
Alors, on trouve pourtant, cher Loïc Bienassi, dans le patrimoine culinaire français, et notamment dans sa littérature gourmande, plusieurs occurrences du mot fondue. Est-ce à dire que la France a une légitimité en matière de fondue historiquement ?
Dès qu'on parle d'histoire gastronomique, il y a toujours le même piège entre le mot et la chose. Et là, on arrive au mot. C'est-à-dire qu'on trouve des recettes de fondue dans la littérature culinaire française. On a une occurrence, par exemple, dans le cuisinier moderne de La Chapelle en 1735. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est du fromage fondu dans lequel on ajoute... Alors, il y a un peu de vin dedans. Enfin, il y a différentes recettes. À vrai dire, il y a même de l'orange dedans. Donc, c'est une recette là qui est d'abord, qui se consomme individuellement, qui est d'abord du fromage fondu, simplement, dans lequel on ajoute différentes choses. C'est pas du tout la fondue au vin telle qu'on l'entend et telle qu'on la connaît.
Mais il peut y avoir du vin, il peut y avoir des œufs.
Il peut y avoir des œufs.
Donc même... des agrumes, comme vous l'avez dit.
Absolument. Il y a différentes préparations, mais ce qu'on peut dire, c'est que du coup, la fondue, le mot des fondues, des types de fondues, et notamment aux œufs, sont présentes dans la littérature gastronomique française depuis le XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle. Et l'occurrence qui est toujours citée, c'est Brillat-Savarin. Brillat-Savarin, donc La physiologie du goût, 1825.
On parle du célèbre écrivain gastronomique. Hein.
Absolument, là, justement, l'un des fondateurs de la littérature gastronomique. Et lui donne une recette de fondue qu'il dit venir de Suisse, mais en réalité, ce sont des œufs brouillés au fromage. Donc la recette qu'il donne, et qu'il dit venir de Suisse. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'au XIXe siècle, quand on parle de fondue, le terme fondue, finalement, souvent désigne du fromage fondu. Donc comme je le disais, la recette de la fondue moderne émerge, mais on a du mal parfois à savoir de quoi on parle, même en Suisse, au XIXe siècle, lorsqu'on emploie le mot fondue.
On consacrera d'ailleurs, le 3 mars prochain, une émission entière au personnage de Brillat-Savarin. La fondue savoyarde, c'est donc une invention toute récente ?
Alors, une invention récente. La Savoie connaît la fondue, notamment la Savoie du Nord, peut-être même dès le XVIIIe siècle.
Mais par imprégnation, par influence suisse ?
Oui, et puis c'est le monde alpin aussi. Je veux dire, c'est les frontières, souvent, en termes culinaires, ça n'a pas vraiment de pertinence. On voit, par exemple, 1768, on a Rousseau, alors on se dit un Suisse, très bien, Rousseau qui commande un bon fromage de gruyère, plutôt nouveau que vieux, pour se régaler d'une fondue. On se dit, bon, ben voilà, normal, il est Suisse. Soit dit en passant, on ne sait pas de quoi il parle quand il parle de fondue. Et il ajoute, cela nous rappellerait la montagne de Salève. Et précisément, Salève, là, on est en Haute-Savoie. Donc clairement, on peut supposer que la Savoie du Nord connaissait la fondue. Alors, l'ensemble de la Savoie va la découvrir finalement de manière plus récente, avec le développement du tourisme, certainement venant de Suisse, à partir lentement du début du XXe siècle. Et ce qui est clair aussi, c'est que l'expression fondue savoyarde, elle, apparaît dans l'entre-deux-guerres. C'est logique, c'est justement l'accélération de la présence touristique et c'est aussi le moment où on met, et les deux sont liés, à l'honneur les cuisines régionales, l'entre-deux-guerres. Donc ça devient un plat savoyard, et d'ailleurs ce n'est pas nécessairement la composition actuelle de ce qu'on entend aujourd'hui par fondue savoyarde. En tout cas, la fondue savoyarde s'installe comme une spécialité régionale dans l'entre-deux-guerres, et clairement ça ne va pas cesser à partir de là.
Et Fabrice Gebner, il y a évidemment, dans les grandes lignes, on va rentrer évidemment dans les détails, et notamment grâce à la superbe fondue qui est en train de fondre, que vous préparez dans le caquelon dont on va déguster, il y a des écoles fromagères différentes pour les fondues. Rappelons juste en quelques mots, pour situer les deux écoles, la fondue savoyarde, on parle de quel fromage dans le caquelon ?
Alors, pareil, il n'y a pas de certitude, mais globalement, on trouve du Beaufort, du Comté, qui n'est pas savoyard, et de l'Emmental de Savoie.
Et on peut trouver on peut varier.
De l'abondance, si on veut rester bien en Savoie pour remplacer le Comté. Voilà ce qui se fait principalement avec, pareil, du vin blanc sec de Savoie.
Et il y a une recette suisse qui domine un peu toutes les autres, parce que là aussi, selon évidemment les cantons suisses, on a des assemblages de fromages un peu différents, mais on va dire que la plus connue, et celle qui a beaucoup voyagé en dehors des frontières de Suisse, c'est la fameuse moitié-moitié. Pourquoi cette expression ?
Alors moitié-moitié, parce qu'il y a deux fromages qui sont à portion égale, du gruyère, le gruyère suisse AOP, et le vacherin fribourgeois AOP. Donc c'est les AOP suisses, et c'est vrai que cette recette est celle qui est la plus connue, qui fonctionne le plus. Après, c'est vrai que dans chaque canton, on va avoir sa propre recette.
Cette émission, chers amis, est l'occasion d'un mea culpa. J'ai fait une grosse boulette, ou plutôt une grosse boule. Alors, comme de nombreux auditeurs et auditrices, j'aime beaucoup la fondue, et j'ai réalisé en décembre dernier, sur mon compte Instagram, la moitié-moitié que vous venez d'expliquer, Fabrice Gebner. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai un peu mis les pieds dans le plat, ou plutôt les pieds dans le caquelon, au moment de la cuisson, sans doute sous l'effet d'un feu un peu trop vif. Je me suis retrouvé avec une grosse boule de chewing-gum dans le caquelon, trempant dans un liquide vineux, et j'ai provoqué, il faut bien le dire, et il faut le reconnaître, un tollé en Suisse, avec de nombreux commentaires de citoyens helvètes qui m'ont carrément, alors là, cloué au pilori. Il y en a même qui me menaçaient d'interdiction de territoire. Le journaliste gastronomique du magazine Blick, Fabien Goubet, m'a même accusé dans un article de fondue gate. Ça y est, le mot est lâché. Je l'ai contacté, Fabien Goubet, pour essayer de comprendre, parce que j'étais quand même un petit peu embêté de cette erreur. Je voulais pas rester sur un échec. Je suis allé sur place pour comprendre mon erreur.
Étant donné que tu as eu quelques petits problèmes de préparation, tous les gens ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il sait pas faire une fondue, c'est pas comme ça qu'on fait. Vite, il faut lui dire de venir ici apprendre comment on fait la vraie fondue. » Donc aujourd'hui, tu es là, tu vas pouvoir réparer tes erreurs, c'est génial.
J'ai pris Fabien Goubet au mot et il m'a emmené dans une fromagerie réputée qui fabrique de bonnes pâtes AOP, ainsi que dans un restaurant historique pour déguster la véritable fondue suisse. C'était un peu le voyage de la réconciliation. Je vais vous faire découvrir tout ça juste après. Tiens, bah voilà, un titre de circonstance. Déjeuner en paix de Stéphane Echer, choisi par Djoubaka. Bon déjeuner dans l'amour et dans la paix sur France Inter.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin. Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. chaise, le journal du matin. Les nouvelles sont mon reste, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Viens de monter soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
Voyage de la fondue en Suisse. Première étape, les fromages, la matière première. Le journaliste gastronomique Fabien Goubet m'accompagne à la fromagerie de Prailloux. Imaginez des paysages de montagne à couper le souffle et une laiterie flambant neuve.
Alors je m'appelle Lucia Cavussens. Nous nous trouvons ici à la fromagerie de Prailloux, Châtel-Saint-Denis. On est au sud du canton de Fribourg, en Suisse, entre Lausanne et Berne. Ici nous produisons principalement du gruyère AOP et du vacherin fribourgeois AOP dans les deux circuits, le circuit conventionnel et le circuit bio. Et mon mari s'occupe de la production, moi de la vente des fromages.
Enchanté, Léonard Cavussens.
Et nous sommes ici dans une véritable cathédrale. C'est le coffre-fort de la maison, c'est ça? C'est oui. Là où vous stockez vos meules?
Exactement, donc on est dans une cave à gruyère où on peut contenir 7300 pièces de gruyère et aussi 1900 pièces de vacherin fribourgeois.
Définition d'une fondue moitié-moitié?
Alors, j'aime bien le mot moitié-moitié, mais nous, ici à Fribourg, on ne met pas exactement la moitié de la moitié. On met un peu plus de vacherin pour de l'onctuosité et un peu moins de gruyère.
Quelle qualité d'affinage pour un gruyère suisse qui rentre dans la composition de cette recette?
Alors, il y a plein de sensibilités, je dirais. Chaque fromage a un peu sa recette, mais moi, j'ai tendance à utiliser un gruyère mi-salé. Donc c'est des affinages qui sont entre 9 et 10 mois.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre marteau?
Je suis en train de taper mon fromage pour essayer de détecter s'il y a une ouverture, un trou.
Donc là, le son est mat, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas de défaut.
Exactement, oui.
Alors là, vous plantez.
Oui, je plante ma sonde et puis je vais pouvoir sortir une petite carotte.
J'en prends un bout?
Oui, quand on l'évalue, on écrase légèrement dans la main, déjà pour voir comment il se comporte. On le sent, puis après on le met en bouche.
On est sur un bel équilibre entre des notes florales, fruitées. On sent déjà aussi l'évolution, l'affinage du fromage avec des notes de fruits secs, des notes un peu noisetées.
Exactement, oui. On a déjà un fromage qui fond assez bien dans la bouche. Moi, c'est ce que je recherche, c'est un fromage ni trop jeune ni trop vieux qui ne va pas me faire une fondue trop salée, mais qui va bien fondre et donner une belle onctuosité à ma fondue.
La définition technique d'un gruyère AOP, ce n'est pas du tout ce que les Français pensent, hein. Ce n'est pas du tout un fromage à trous, mais c'est en fait un fromage à pâte pressée, cuite.
Exactement, ouais.
Qui est un peu le cousin de notre comté.
Exactement, le comté, le Beaufort, on est dans des fabrications qui sont très proches.
Et ensuite, il y a un deuxième fromage qui entre dans la composition de la fondue moitié-moitié, qui est la fondue suisse la plus connue en France. C'est ce vacherin fribourgeois qu'on ne connaît pas trop en France.
Oui, alors le vacherin fribourgeois, il est produit, comme son nom l'indique, exclusivement à Fribourg. C'est une pâte mi-dure qui va être au lait thermisé.
On commence, nous, à les consommer autour de 3 mois. Et puis on va les affiner jusqu'à 6, voire 7 ou 8 mois, dans des cas exceptionnels, voilà.
Alors c'est un fromage qui va être plus souple, peut comporter certains trous, lui, au contraire du gruyère. Après, plus il y a de trous, mieux il va fondre.
Oui, il y a un peu d'ouverture qui est due aux bactéries qu'on met dans ce fromage, qui produisent un peu de CO2, voilà.
On peut en goûter ensemble?
Oui, tout à fait.
S'il fallait trouver un cousin du vacherin fribourgeois...
Une pâte pressée non cuite. Et puis au niveau de la texture de la pâte, je trouve que c'est presque le morbier qui se rapproche le plus.
Une texture très onctueuse, très fondante.
Voilà, c'est ce qu'on va retrouver dans la fondue. Le mélange du gruyère et du vacherin donne une fondue moitié-moitié qui est très crémeuse. Et puis nous, disons à Fribourg, spécialement dans le sud du canton, on confectionne aussi une fondue qui est uniquement au vacherin fribourgeois.
On la prépare à l'eau. C'est plusieurs affinages de vacherin mélangés. C'est une fondue qui est très onctueuse. Après, c'est une fondue qui est plus redoutée pour la fabrication parce qu'il ne faut pas la cuire. Il faut la chauffer maximum 50 degrés. Traditionnellement, on la mange avec des pommes de terre chaudes qui vont apporter plus de chaleur au fromage. Et ça, c'est une tuerie. C'est vraiment la plus crémeuse de toutes les fondues.
Donc ça, c'est la fondue fribourgeoise ?
On l'appelle la 100% vacherin, nous. C'est la fondue qui est le plus appréciée aussi en vente au magasin et les gens de la région. Alors, ils la mangent aussi avec du pain, hein, mais nous, à la maison, c'est avec des patates.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous pour la visite.
La fromagerie de Prayou, dans le canton de Fribourg. Ça fait envie, non, Fabrice Gepner ?
Ouais, ça fait envie, ouais, quand tu as décrit les paysages alpins de montagne, pour y être allé encore l'été dernier dans cette région-là, ouais, ça fait envie. Ouais.
Mais alors, en Suisse, c'est vrai que Gruyère, on l'a compris, désigne un fromage AOP, donc un vrai beau fromage de dégustation, un fromage de terroir. Le Gruyère, d'ailleurs, c'est aussi la Gruyère, parce que c'est une région, et c'est aussi un village avec un S, le village de Gruyère, dans le canton de Fribourg. Et c'est vrai qu'en France, ça désigne un peu, c'est un nom générique pour désigner ce fromage à trous. D'où vient cette confusion ?
Alors, le terme Gruyère, de base, alors il y a plein de théories sur l'origine de ce mot. Il vient probablement du nom des officiers de Charlemagne qui s'appelaient les Gruyers. Et par extension, donc, les officiers qui étaient dans cette région alpine. En fait, après, le terme gruyère s'est développé à l'ensemble des pâtes pressées cuites. Et en fait, on appelait beaucoup de fromages gruyères. Par exemple, Bria Savarin, on en parlait tout à l'heure, parlait du Beaufort comme le roi des gruyères. Le comté, par exemple, s'appelait aussi Gruyère de Comté. D'ailleurs, c'est assez amusant. Encore aujourd'hui, le comité interprofessionnel de Gruyère de Comté existe encore. Donc, c'est l'interprofession du comté. Donc, ça s'appelle encore Gruyère.
Donc, Gruyère, c'était un mot générique qui désignait en quelque sorte une meule de fromage.
C'est une meule de fromage, exactement. Et donc, c'est avec l'apparition des AOC que les distinctions ont commencé à se faire et que les producteurs se sont rattachés à l'essentiel et donc ont quitté le terme de Gruyère pour s'appeler Comté, Beaufort, Abondance, etc.
Et nous, Gruyère, c'est resté un mot un peu qu'on n'emploie pas à bon escient et qui, en fait, veut dire plutôt émental.
Oui, alors la confusion est effectivement faite. Donc, il est assez difficile de mettre de l'ordre dans tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc il y a le Gruyère suisse, donc une AOP suisse. Il y a aussi une autre AOP suisse qui s'appelle l'Emmentaler. Et côté français, il y a l'Emmental, qui est en fait un terme générique qui peut être produit partout en France. Et notamment, c'est intéressant quand on regarde en fait d'où vient la production d'Emmental. En fait, 75% est fabriqué en Bretagne. Et donc, les gros groupes industriels ont quitté leur Savoie natale pour s'installer en Bretagne où il est plus facile de produire du fromage et d'où cette confusion. Après, il y a quand même des appellations en IGP pour l'Emmental. Il y en a deux et il y a une appellation aussi de Gruyère français en IGP.
Ah oui, donc c'est quand même... on peut parler quand même entre la France et la Suisse au niveau des fromages alpins d'une vraie rivalité, même si on l'a compris, la Suisse domine un peu la situation par la qualité de ses fromages et par son antériorité historique.
La qualité, alors moi je vous laisse libre de vos propos. À partir de l'entre-deux-guerres, un peu pour reprendre le fil de ce que j'expliquais, c'est-à-dire que la fondue devient ce plat national, la Savoie commence à l'adopter, mais c'est aussi un produit, j'allais dire, tourné vers l'extérieur. C'est le tourisme qui, clairement, fait le développement de la fondue, son succès en France. Et c'est le cas de plein de plats régionaux. On le trouve dans les auberges. C'est destiné aux touristes. Et le succès, c'est celui de ce public extérieur qui découvre la Savoie. Et ça va continuer, évidemment, durant les Trente Glorieuses. C'est-à-dire que là, on a entendu l'extrait des bronzés fonds du ski. Ça devient le plat emblématique, convivial, qui réchauffe aux sports d'hiver, etc., etc. Mais en France, vraiment, c'est indissociable de l'histoire du développement touristique des Alpes que le succès de la fondue, ça c'est certain.
La fondue suisse a connu une carrière internationale absolument colossale. On peut parler vraiment d'une gloire mondiale de la fondue.
Alors c'est vrai, parce que autant en France, il y a la fondue savoyarde qui existe. Mais c'est vrai qu'on voit aux États-Unis que le fait que la fondue est suisse est plus clairement reconnue. En fait, chose qu'on ignore souvent, il y a eu un vrai engouement pour la fondue aux États-Unis à partir des années 60-70. Ça s'est un peu essoufflé, puis dans les années 90, c'est revenu en force. Et clairement, c'est vu comme un produit suisse. Souvent, on attribue ça, j'avoue que je ne sais pas si c'est exact, à un chef qui s'appelait Conrad Egli, qui avait un restaurant qui s'appelait le Chalet Suisse, à New York. Et on lui attribue généralement la paternité de ce succès américain. Mais vraiment, c'était devenu un plat populaire, incontestablement à travers les États-Unis. On trouve des livres de cuisine, par exemple, en 68, The Fondue Cookbook.
Ça, je vais absolument chiner ce livre.
Et clairement, pour les Américains, c'est un plat suisse. Voilà, il n'y a pas de discussion.
D'ailleurs, les Suisses sont venus aux États-Unis, à New York, pour présenter la fondue en 1940, lors de l'exposition universelle.
Et c'est vrai que ça consacre, je pense, cette exposition universelle, tout ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est le moment, après cet entre-deux-guerres, où la fondue devient plat national. Et c'est souvent dans le regard de l'autre aussi que ça se construit. Là. Donc une exposition universelle, il n'y a rien de tel comme vitrine. Quoi.
Donc on pourrait dire, vive la fondue suisse, nos amis suisses ont l'antériorité de la fondue, mais les Français ont leur mot à dire.
Absolument.
On va déguster sur France Inter.
Justine Knapp aussi a une lourde responsabilité. Quel vin faut-il servir avec la fondue? Autrement dit, de quel côté de la frontière va-t-elle faire pencher nos verres?
Alors, quel accord on peut tenter avec la fondue? L'accord le plus spontané, c'est un accord de contraste. Donc, imaginez la fondue comme un plat de baryton avec un son de tuba. Alors, on choisit un vin aux notes aiguës pour apporter de la tension, de la fraîcheur. Ça peut être aussi des bulles pour la légèreté, un vin effervescent ou même une bière acidulée. Mais le plus souvent, en Suisse, dans le Valais, on aime bien boire un vin du cépage fendant. On l'appelle Chasselas en France. Et en Savoie, la Jacquère ou l'Altesse vont très bien avec la fondue. Des accords locaux, une bonne idée, on trouve des cuvées délicieuses.
Bon, là, vous choisissez pas trop votre corps pour l'instant.
On va y venir doucement.
C'est bien.
Mais vous apportez l'un de ces classiques, Masticotet. Ça me donnait l'impression d'entretenir cette image du petit blanc près de la fondue, qui prend d'ailleurs chaud au fil du repas, vu le peu d'intérêt qu'on lui porte. Les vins suisses ne se résument pas à ce vin avant tout jeune et fruité. Ça vaut plus largement pour les vins alpins. Une partie du territoire peine encore parfois à se débarrasser de cette réputation. En Savoie, les vins vite fabriqués, vite embouteillés pour être prêts à arroser les stations de ski ont fait du mal, alors que la région regorge de vins soignés, de vins de gastronomie. Alors, il faut se figurer, les vins alpins, c'est déjà un vaste territoire. Le Valais en Suisse, le Val d'Aoste en Italie, les Savoies en France. Donc je vous laisse imaginer la diversité de lieux, de microclimats, de cépages endémiques, de sensibilités vigneronnes. Donc l'étendue des profils des vins qui ne se dévouent pas seulement à la fondue. Et j'ai apporté l'un d'eux pour l'inspiration.
Donc vous avez quand même osé apporter un vin, et de quelle nationalité est-il?
Alors, un vin suisse,
ah, ça y est.
L'un des plus beaux domaines de Suisse, installé en 71, pionnier de la biodynamie. On est à Fuyi, au cœur du Valais, à 45 minutes de route de la vallée de Chamonix. Domaine de Bedon. Deux caractéristiques dans ce domaine. La pente vertigineuse, les vignes sont perchées à 890 mètres d'altitude, des vignes dans le ciel. On y grimpe en prenant un petit téléphérique ou bien on compte une heure de montée à pied au choix. Et c'est vertigineux. Et deuxième caractéristique, le vieillissement des vins. Un stock sur une vingtaine d'années, ce qui est rare en Suisse, hein, même pour les rouges. Les vins sont plutôt bu dans l'année, il n'y a pas une grande culture de la garde ni un goût pour. Marion Grange, c'est la vigneronne qui gère le domaine avec sa fille Séverine. Pour elle, ce sont même les blancs qu'elle prend le plus de plaisir à voir vieillir. Et c'est vrai que ces vins révèlent toute leur grâce avec le temps. C'est un kaléidoscope d'arômes, les vins s'harmonisent, les bouches s'étirent, leur pureté s'accentue. Je vous ai servi un 2016 encore jeune qui commence seulement à se patiner. Cépage Müller-Thurgau, appelé en Suisse Riesling Sylvaner.
Voilà. Il y a une pureté aromatique.
On a quelques notes pétrolées aussi qui commencent à apparaître.
Absolument, des notes pétrolées. Et il y a quand même encore une belle tension. Hein.
Oui, exactement. Il y a de l'intensité. Toute la bouche est imprégnée par la saveur. Ça nous fait saliver. Et tout ça dans un jus fin, clair comme une eau de roche. Mm-hmm. On sent que ces vins en ont sous le pied. Autre exemple avec le domaine Louis Magnin. Là, en Savoie, Louis et Béatrice proposent à la vente leur Chinien Bergeron dans des millésimes de 20 à 30 ans d'âge. Des blancs si concentrés en umami qu'ils font plisser les yeux. Des vins à susauter, incroyables d'énergie. Et je ne vous parle pas des rouges, en tout cas pas aujourd'hui.
Donc c'est ça, ça viendra sans doute, Justine Knaff. Et si on revient à notre fondu, on peut tout à fait envisager un vieux millésime pour l'accompagner ?
Je vous raconte l'anecdote de Marion Grange, du domaine de Bedon, dans un dîner prestigieux entre Suisses. L'un de ces vieux millésimes a été proposé avec une fondue, ce qui a provoqué un petit scandale à table. Avec la fondue, c'est un vin jeune, point. Alors le risque, à mon sens, c'est effectivement que la délicatesse du vin âgé se fasse étouffer par la fondue, mais ce n'est pas interdit, comme dit Marion.
Ils sont attirants décidément, les Suisses. Il ne faut pas trop les chercher dans le domaine du fromage. Hein. Il y a une certaine susceptibilité nationale. Et ces vins suisses formidables, on peut les trouver en France ou pas ?
Pas facile. Les Suisses exportent seulement 1% de leur production. Tout est bu localement. Et oui. On a peu d'aperçus des trésors de ce pays. En France, c'est l'importateur Salman Azar qui rapporte ici les vins du domaine de Bedon. Si on compte le fort coût d'importation hors UE, les prix plus élevés en Suisse et la viticulture artisanale et héroïque de ce domaine, les vieux millésimes arrivent chez nous à une quarantaine d'euros. J'ai donc prévu sur le site de l'émission 4 belles cuvées alpines côté français à moins de 20 euros à déboucher avec une fondue par exemple. Et je propose de garder cette évocation des vieux millésimes comme une piste à suivre dans le panorama alpin.
Très intéressant, merci beaucoup. Vos références, chère Justine, à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster. On a envie de dire, Fabrice Gebner, que l'on pourrait avoir tendance à boire le vin qui nous a servi à faire la fondue dans le caquelon, même si on peut évidemment monter un peu en puissance aussi en termes d'accord. Mais vous avez quand même des choses à nous dire sur les liquides, les boissons qui doivent accompagner une fondue.
Donc oui, on peut la boire, on veut terminer la bouteille qu'on n'a pas utilisée pour la fondue pendant le repas, bien sûr, si on ne l'a pas déjà terminée en cuisinant. Après, il y a effectivement d'autres boissons qui se marient bien avec la fondue. On peut, notamment pour faciliter la digestion, se positionner plutôt sur des boissons chaudes. Ah. Et notamment, en Suisse, il est assez commun de trouver du thé, et de boire du thé
c'est
avec
vrai,
sa fondue.
Je l'ai constaté.
Du thé noir.
Mais pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe si la boisson est fraîche ? Si c'est de l'eau glacée, par exemple ?
Alors, de l'eau glacée, il faut vraiment éviter parce que ça va, en quelque sorte, cimenter dans l'estomac. Et donc, la rencontre du fromage chaud et de la boisson fraîche ne fait pas un bon mélange.
Et en même temps, on dit souvent, et c'est ce que nous a dit Justine, que l'acidité d'un vin blanc contrebalance évidemment le gras du fromage et facilite aussi
que
la digestion.
Oui, effectivement. Alors, il est assez commun, par exemple, de rajouter du citron dans son thé. Ou, par exemple, il y a d'autres boissons chaudes, type chivasseur.
Le
chivasseur.
Chivasseur. Alors, qui autour de plateau sait ce que c'est que le chivasseur ?
Alors, littéralement, eau de ski, qui en fait est plus une boisson pour les enfants.
C'est de la neige fondue.
Alors, pas exactement. Donc, effectivement, il y a de l'eau, mais il y a aussi du sirop de framboise et du jus de citron.
Ah bon,
et
d'accord.
Ça se boit soit froid, soit chaud, effectivement. Pour accompagner la fondue.
De plus en plus de Suisses boivent aussi de la bière pour faciliter la digestion ou une boisson pétillante. Et il y a même des Suisses qui osent faire leur fondue avec de la bière à la place du vin blanc.
Oui, bien sûr, on voit, comme on disait tout à l'heure, il y a énormément de recettes. Et effectivement, la bière, j'ai vu pas mal de fondues à la Guinness, notamment. Donc, pour le coup, ils partent outre-Manche. Et il y a tout un tas de boissons. On peut imaginer, ils l'ont fait pour nous, du cidre aussi. Ça peut être du jus de pomme. En fait, on se rend compte que la boisson qui est utilisée n'a pas beaucoup d'importance en termes aromatiques. Il est difficile de discerner à l'aveugle et sans le savoir si une fondue a été faite avec tel ou tel vin. Il y a quand même une règle importante pour le vin, c'est de choisir quand même un vin de qualité. Ça serait dommage de mettre une piquette parce que ça risque d'altérer la complexité aromatique et l'intérêt de la fondue.
Dans un instant, vous allez cuisiner votre fondue à vous. C'est la fondue de votre invention qui va mettre tout le monde d'accord. C'est une fondue d'auteur. Sans trop révéler la recette, vous allez utiliser un vin blanc pétillant qui n'est ni suisse ni français.
Ah, c'était impossible pour moi de choisir, de prendre mon camp, blesser un côté ou l'autre de ma famille, jamais de la vie. Et donc, je suis parti sur un vin... Je dis pas plus.
Dans un instant, cher Fabrice, la recette de la véritable fondue suisse moitié-moitié. Alors là, on parle vraiment de fondue de tradition. Elle est bientôt révélée. Mon ami confrère suisse Fabien Goubet m'emmène dans les cuisines d'une auberge totalement culte à 30 minutes de Lausanne, dans le canton de Fribourg.
Because you're mine, yeah, you're mine. Boy, you better stop the things you do.
La chanteuse suisse Sophie Hunger avec la reprise du titre I Put a Spell on You.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Voilà, donc on est de retour de la fromagerie du Prayou. On est à présent à Châtel-Saint-Denis et on est en face de ce restaurant, tu vois, François-Régis, qui s'appelle le Café Tivoli. C'est vraiment une super institution très respectée dans la région puisque c'est un resto qui a plus de 100 ans. Il est ouvert en 1899, c'est toujours la même famille qui s'en occupe. Et puis, ben, je te propose d'aller leur demander comment est-ce qu'on fabrique une fondue. Et puis, ben, comme tu peux t'en douter, il la fabrique avec les fromages qu'on vient de voir être fabriqués à la fromagerie. Donc vraiment, là, tu vas avoir... toutes les informations nécessaires à faire une bonne fondue.
Je te suis, Fabien.
C'est parti.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue au Tivoli. Temple de la fondue en Suisse et je pense de par le monde. Alors je m'appelle Sarah Colliard. Avec mon frère, on est la cinquième génération ici au Café Tivoli.
On est dans des boiseries sculptées avec un très beau plafond également. Il y a... je peux me permettre là ?
Oui, faites seulement.
Ah oui, ah, il y a du métier.
Si jamais, quand on fait sonner la cloche, c'est tournée générale. C'est voilà.
Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Ici, vous pratiquez quel fondue au pluriel ?
Alors, on fait la vacherin, et puis on fait aussi la presque moitié-moitié. On fait un tiers gruyère, deux tiers vacherin. On fait la même recette que notre arrière-grand-père et que nos parents.
Est-ce qu'on peut aller préparer une fondue moitié-moitié ou presque moitié-moitié ?
Avec plaisir.
Vous allez me révéler tous les secrets ?
Presque tous les secrets.
Ah là, il y a carrément les meules de fromage.
Exactement. On coupe la portion qui est commandée dans les meules de fromage. On fait vraiment la fondue minute chez nous. Donc on achète les meules de fromage chez nos fournisseurs. la fromagerie de Prayou, la laiterie qui est juste en face du Tivoli, la laiterie Dumas et la maison Molaison.
On attaque ?
D'accord.
Allons-y. Alors là, vous allez faire une fondue dans un caclon pour une personne ?
Pour une personne, oui. Donc nous, on fait 300 grammes bruts.
Ah, vous êtes généreux, oui.
Avec la couenne, oui, exactement. Et une fois décoinée, ça fait à peu près 270 grammes ou 270 grammes, comme on dit en Suisse, net par personne.
Donc, on est d'accord qu'on est sur un tiers de gruyère AOP et deux tiers de vacherin.
Exactement.
Là, c'est le gruyère que vous râpez ?
Là, c'est le gruyère.
Parce que vous les faites pas fondre en même temps.
Effectivement. Là, râpez le vacherin comme ça. Voilà. Alors, on le prend.
Alors, un cacon sur le feu. Là, c'est du gaz.
Le feu très fort. On met un petit verre vaudois.
Ça fait combien de décilitres ?
Voilà.
Entre 5 et 7 centilitres.
Après, on met un petit peu de féculent. Nous, on utilise la farine. Par contre, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont intolérants au gluten, donc on peut aussi utiliser de la maïzena.
Vous mettez une cuillère à café ?
Oui.
Et là, vous venez de mettre une petite poudre rouge ?
Oui, c'est la poudre de perlimpinpin qui fait que nos fondues sont excellentes.
Oh là là, ouais, on n'a pas le droit de percer le secret.
On met un tout petit peu de poivre de Cayenne dans notre fondue.
Ça, c'est la recette familiale ?
C'est la recette familiale.
Qui permet de relever un petit peu la fondue ?
Effectivement. Je mélange bien avec le fouet pour mélanger le vin, la farine et le petit ingrédient. Ensuite, quand le vin bout, vous mettez votre gruyère. Voilà. Bien, bien brassé pour faire fondre le gruyère avec le vin.
Pas d'ail, voilà. Pas de noix de muscade.
Alors non, j'ai pas mis d'ail dans celle-ci. Si vous mettez l'ail, il faut mettre en même temps que vous mettez votre vin et votre fécule. Et là, on voit que le gruyère a bien fondu, notre
il fait des gruyère
AOP. On baisse le feu, tout petit feu, et on ajoute le vacherin.
Ah, c'est là où je me suis raté, moi. C'est que je pense que j'ai trop poussé la cuisson, alors que le vacherin est un fromage délicat qui demande une cuisson très douce.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous avez vu circuler ma vidéo de fondue qui était un peu un ratage sur Instagram ?
On a beaucoup ri. J'en ai encore parlé ce matin avec mon équipe de cuisine. Et on se disait que vous n'aviez pas mis le féculent. Peut-être qu'elle était aussi trop chaude quand vous avez mis le vacherin. Donc maintenant, vous avez les ingrédients, la façon de la faire. Vous ne pourrez plus jamais la louper.
En France, il y en a qui aiment la fondue qui file, qui fait vraiment des fils de téléphérique. Vous en pensez quoi ?
Les téléphériques qui sont dans les stations de ski.
Pas dans le caclon.
Pas dans le caclon. Certaines personnes mettent plus fort parce qu'ils trouvent que c'est pas assez chaud. Puis après, ils baissent. Et puis tout d'un coup, effectivement, le fromage change de texture et fait des fils. Tandis que là, voilà.
Ouh, elle est superbe.
Très, très crémeuse.
Et donc, c'est vraiment prêt en une poignée de minutes, en fait ?
Oui, entre 5 et 10 minutes. Ça dépend. Après, là, on a fait pour une personne. Bon.
Vous servez combien de fondue par jour au Café Tivoli ?
Ça dépend des jours, ça dépend si c'est les week-ends. On a eu servi jusqu'à 400 fondues en une journée. Et puis, on fait à peu près 13 tonnes de fromage par année.
Texture.
Votre fondue.
Parfaite. Trop envie de la déguster.
Avec du pain et des pommes de terre.
Génial. Merci. Hein.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le Café Tivoli, ça fait envie, hein. Cette adresse historique à Châtel-Saint-Denis, on est dans le canton de Fribourg, pas très loin de Lausanne, et l'expérience a été plus que concluante. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le tuto vidéo de cette fondue presque moitié-moitié sur nos réseaux sociaux. Il y a un point qui n'est pas très clair et qui d'ailleurs divise les gourmets suisses, Fabrice Gebner, c'est la question de la fécule. Fécule de pommes de terre ou de maïs, qu'on appelle, pour citer la marque, maïzena. Y a des Suisses qui considèrent que c'est un ingrédient de base comme le fromage et le vin blanc, et d'autres considèrent que c'est au contraire plutôt un ingrédient de secours qui est là pour sauver la fondue si elle tranche.
Alors, je vais faire une réponse de Suisse pour le coup, et je vais te dire les deux. En réalité, elle va permettre dès le départ de lier le fromage au vin et d'avoir cette onctuosité dans la recette.
C'est d'ailleurs ce que vous avez fait, car il est temps de cuisiner enfin votre fondue. Franco-suisse, on l'a compris, est-ce à dire qu'il y a autant de fromage français que de fromage suisse dedans ?
Exactement. Alors, on est parti sur quatre fromages, deux français, deux suisses. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors, On commence avec du plus doux au plus puissant, pour que ce soit plus facile pour tout le monde, un Emmental de Savoie, IGP. Et donc ça, ça va faire peur un peu aux Suisses, mais ça va rajouter du filant qu'on aime beaucoup côté français. Ensuite, j'ai pris un Comté d'été 2022, donc 18 mois d'affinage. Ensuite, je suis allé sur un...
Donc là, on passe la frontière.
On passe de l'autre côté. Et on va aller sur un Vacherin fribourgeois d'alpage, donc de l'été dernier, pour finir sur un Montvully classique.
Un Montvully. Alors ça, c'est un fromage qu'on ne croise pas tout le temps dans les fromageries, qui n'est pas forcément très connu. Vous nous en dites un mot ?
Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas un fromage AOP suisse. Pour le coup, c'est une seule fromagerie qui s'appelle la fromagerie Schaffer qui produit ce fromage, qui commence à être bien connu. Alors, ça reste confidentiel quand même. On parle d'une centaine de meules par jour. Ce n'est pas énorme. Mais il y en a pas mal qui passent la frontière. Et notamment en France, on va le retrouver dans pas mal de crèmeries.
Si on devait proposer une alternative quand même pour nos auditeurs et auditrices qui ne trouveront pas forcément ce fromage... très facilement.
Alors, si on veut rester en Suisse, et c'est même le producteur lui-même, Monsieur Schaffer, qui en parle, et on peut, ça ressemble pas mal à l'Appenzeller.
Très bien.
Et on irait plutôt sur... Alors, il y a plusieurs affinages dans l'Appenzeller, on irait plutôt sur le surchois, qui est l'équivalent de l'entre-deux.
D'accord. Donc, quatre fromages à parts égales.
À parts égales.
Quelle quantité par personne pour une fondue généreuse ?
Alors, moi, je suis parti sur 300 grammes par personne.
Ah, vous êtes généreux,
avec la croûte. Ouais, j'aime bien ça.
Donc, ça veut dire que quand on décroûte le fromage, il reste environ...
On va dire 270, 250,
200.
Si on fait des grosses croûtes.
Alors là, elle est là, cette fondue. Elle a un parfum absolument extraordinaire. Nos amis Justine et Loïc ont déjà dégainé leur pain. Elle est prête, mais on veut savoir comment vous l'avez préparée. Parce qu'on instaurait un petit suspense par rapport à l'identité du vin que vous utilisez.
Oui, effectivement. Alors, j'ai pas réussi à choisir entre le vin français et le vin suisse. C'était trop compliqué pour moi. Et donc, je suis resté par contre dans les Alpes avec un vin italien. Et parce que les vins effervescents fonctionnent bien avec la fondue, ça va lui donner de la légèreté, bah, j'ai choisi un Prosecco italien. Donc,
on parle effectivement d'un vin pétillant. Et la pétillance du vin blanc a une importance dans la recette ?
Ouais, ça va donner de la légèreté à la fondue et son onctuosité, donc je le recommande chaudement.
Alors, on plonge dans le caquelon. Première étape, ail ou pas ail ?
Ail.
Ah.
Bien entendu.
Donc, vous tamponnez les parois du caquelon avec de l'ail, c'est ça ?
Alors,
vous
l'écrasez ? Plus que tamponner, je vais vraiment le presser. J'ai vraiment envie que l'intégralité de mon caquelon soit imprégnée de cet ail. Donc, on va prendre 2-3 gousses, pour ceux qui aiment ça, et on va vraiment forcer pour que ça soit bien recouvert.
Alors, 2-3 gousses, il faut quand même comprendre que vous avez fait une fondue pour 6 personnes.
Oui.
Donc vous êtes particulièrement généreux. 2-3 gousses pour 6 personnes. Pour 6 personnes, quelle quantité de vin ? On a compris que c'était du Prosecco.
On commence avec 20 centilitres de vin, donc il faut compter 2 verres de vin dans le caquelon. Et on va rajouter ensuite notre fécule.
Mm-hmm.
Et on peut partir sur 6 cuillères à café ou 3 cuillères à soupe.
D'accord, 3 cuillères à soupe de fécule de maïs que vous mélangez au vin. Là, j'imagine que vous portez à frémissement.
Oui, effectivement. Alors, on va mélanger au fouet, pour le coup, fouet de cuisine, et on va attendre le frémissement, effectivement, et donc, et surtout pas dépasser ça, on reste frémissement, et là, le grand moment intervient, on va pouvoir mettre notre première poignée de fromage râpé.
Parce qu'alors, vous avez évidemment râpé vos fromages, ou on demande éventuellement à son fromager de le faire pour nous, et vous mélangez tous vos fromages râpés ensemble dans un saladier, hein. Il n'y a pas d'ordre d'apparition des fromages.
Non, effectivement, ouais, on va tout mélanger d'un coup pour avoir un tout homogène. Et puis voilà, on se lance avec une première poignée. Et là, ça va vraiment être important. C'est là que la magie opère et qu'on sait dès le début, en fait, si on a réussi notre fondue, on va s'armer pour le coup d'une cuillère en bois, une grande cuillère en bois, et on va se lancer dans des 8. Alors, c'est-à-dire ces mouvements de poignée en 8, simplement. On va faire bien attention d'épouser toutes les formes du caquelon. Dès que c'est fondu, on rajoute une poignée. Tout ça à feu doux à moyen.
Voilà, c'est ça qui est important. Parce que moi, je pense personnellement que mon erreur réside dans la force de la chaleur. Je pense que j'ai voulu aller trop vite. Et j'ai effectivement eu un feu trop vif. Ce qui a fait qu'à un moment donné, le fromage s'est aggloméré. Là, il s'agit vraiment d'y aller à feu doux. Et progressivement, poignée après poignée.
C'est ça, exactement. Alors, comme on l'a déterminé tout à l'heure, il s'agit d'une recette suisse, et donc, on est en Suisse, on prend son temps. Et donc, on y va calmement.
Il a le droit de faire l'accent, hein, oui. Parce que sa maman est suisse, il n'y a personne qui va le gronder.
Ce ne serait pas permis sinon, effectivement.
Donc, poignée après poignée, et on obtient quelque chose Ah, on va demander à Justine Knapp de nous décrire au moins visuellement et en termes de texture le résultat. Vous allez vous servir, Justine, quelle texture lorsque vous trempez votre morceau de pain ?
Bah déjà, je vois que c'est complètement homogène. Hein. Je suis désolée d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais c'est vrai que ça se met facilement sur le morceau de pain et là, ça l'englobe complètement. J'ai presque du mal à voir que ça file, que c'est.
Oui, c'est nappant en roban, c'est très particulièrement fondant. Il y a quand même quelques petits gestes en plus. Il y a Justine qui va nous donner le verdict évidemment parce qu'elle va goûter cette fondue. Mais il y a d'autres petits gestes à faire.
Oui, alors donc on va, vous l'avez compris, tourner des huîtres donc avec un peu d'huile de coude jusqu'à fonte totale du fromage râpé bien sûr. Et ensuite, bah, y a quelques étapes pour la finition. Et donc ça, c'est optionnel, mais vous pouvez rajouter un petit shot de kirsch, par exemple.
Ah, donc ça se fait, hein. De l'eau de vie, ouais, de kirsch fruits. En l'occurrence, ça peut être du côté de la Suisse, de l'abricotine.
Alors c'est moins commun, on va de la bricotine ou de la williamine effectivement, mais on va plus, c'est plus kirsch, donc vraiment de la cerise. Il faut savoir que le kirsch c'est aussi des AOP en Suisse, et donc ils sont sérieux avec ça, il y a deux AOP kirsch. Ensuite on peut rajouter, alors si vous l'aimez bien mousseuse, vous pouvez vous jouer aux apprentis sorciers et ajouter deux pincées de bicarbonate de soude.
Ça va la rendre plus légère.
Plus légère et plus digeste aussi. Et enfin, pour les finitions, je vous recommande quelques tours de moulin de poivre noir. Et moi, j'aime beaucoup rajouter de la noix de muscade aussi.
Ah, parce que là, il y a un débat aussi. Il y a des Suisses qui vous disent « Oh là là, mais vous êtes fous, il n'en est pas question. » Et d'autres qui, effectivement, mettent quelques râpés de noix de muscade.
Alors ça, c'est encore une fois à discrétion. Il y en a qui aiment pas, mais c'est assez commun de rajouter de la noix de muscade. Certains vont ajouter aussi du paprika ou du piment de Cayenne.
Justine, Loïc, vous avez goûté cette fondue ?
Absolument.
Ouais, en fait, ce qui est délicieux, je trouve que c'est vraiment l'équilibre, c'est-à-dire que on a de la force, mais ça nous prend pas toute l'aromatique. Il y a une grande persistance qui reste en bouche, et je trouve que le côté fruité des fromages avec le kirsch se répondent assez bien et que ça ramène une légèreté en bouche.
Ouais, c'est ce qui est frappant, je trouve, la légèreté, ce côté mousseux d'ailleurs un peu.
Pas trop salé.
Non, pas trop salé et en fait, nappant, qui ne file pas et qui... Voilà. Non, mais c'est vrai, la légèreté, c'est assez étonnant, en fait.
Je viens de la goûter. Elle est absolument extraordinaire. Sans flagornerie, c'est une de mes meilleures fondues. Elle est incroyable. Vous avez trouvé l'équilibre entre le filant, le fondant, la profondeur, une condimentation, un assaisonnement absolument extraordinaire. Franchement, bravo Fabrice.
Ah, merci beaucoup. Il faut dire que je me suis donné un peu de mal. Après, c'était un mal qui faisait du bien parce qu'il y a pire que de trouver une bonne recette de fondue. Et effectivement, j'ai fait plusieurs tests pour arriver à cette solution qui a un peu tous les avantages de la fondue française. Le filant, on a le crémeux, l'onctuosité de la fondue suisse.
Elle est incroyable.
La puissance.
Et je suis assez content du résultat. Le protocole de préparation, toute la recette en détail est sur franceinter.fr à la page « On va déguster ». Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous posent une question et on finira par cela. Le choix du pain. J'ai constaté qu'en Suisse, là où on mange de la fondue, c'est souvent avec du pain frais. Alors qu'on dit que le pain doit être plutôt rassis en France.
Oui, effectivement. Alors, côté suisse, ils vont préférer le pain blanc ou le pain mi-blanc, et plutôt frais, effectivement. Et ils ont aussi une particularité en Suisse, il est possible de trouver des pains qui sont plats et qui sont déjà prédécoupés en cubes. Donc, c'est vraiment pour que l'accès à la fondue soit simple et rapide. Personnellement, moi, je préfère des pains plutôt bruns. Et là, en l'occurrence, et je l'ai indiqué dans la recette, je vous propose de le couper la veille. Comme ça, il va un peu rassir. Il va
dessécher légèrement.
Sécher. Et donc, ça va rajouter un peu de croquant. Et surtout, la fondue va mieux adhérer au pain aussi.
Plutôt baguette ou plutôt pain de campagne ?
Pain de campagne.
Ah, ok. Bah, y en a qui sont plutôt de l'école baguette.
Ah, mais je les juge pas. C'est un parti pris.
Très bien. Bah, bravo. Vraiment, merci. Et on termine par ce... Grand bravo, on va se régaler et continuer à en manger un peu. Il y en a encore dans le caclon, n'est-ce pas Loïc? Ça va?
Absolument.
Tout va bien,
vous régalez. Plutôt de l'école baguette.
Ça accroche un peu dans le fond.
Et puis je voudrais juste signaler la très belle fondue d'un certain Abdel Riaï El Mansouri. Il travaille à France Inter, il est de Besançon. Et vous savez ce qu'il pratique? La fondue comtoise. Et c'est assez intelligent parce que c'est une fondue à base de comté et de morbier. C'est un peu l'équivalence française de la moitié-moitié suisse. Et vous savez ce qu'il met comme vin pour cette fondue?
Du
savagnin.
Du vin jaune.
Du vin jaune ou du savagnin. Absolument, c'est une super idée, non ? Merci beaucoup, chers amis. Cette émission a été mise en onde par Laurent Thomas avec Paola Collin à la technique. Fabrice Ribaud pour la programmation et la préparation de l'émission. Fabrice Gepner, vous travaillez sur un nouveau projet. Vous avez 10 secondes, mais vous nous en dites un mot. Ça s'appelle le palais du fromage. Enfin, plus exactement, ça va porter un autre nom qui me fait bien rire.
Pour l'instant, je me suis arrêté sur le palais du fromage. Ça va ouvrir en septembre 2025, si tout se passe bien. Et c'est un espace de 1500 m² pour redécouvrir la France aux 3500 fromages, avec un parcours de dégustation multisensoriel et immersif.
Vous n'aviez pas prévu de l'appeler The Place to Brie ?
Alors ça, c'est la phrase en dessous.
Ah oui, ok.
Et ça sera The Place to Brie, effectivement. Et si je peux me permettre de profiter du micro pour une micro-annonce, je cherche plein d'argent et des grands locaux à Paris.
Eh bien écoutez, l'annonce est passée. Un merci aussi à Fabien Goubet, mais également à Sybille Grotz, championne du monde de fondu catégorie amateur en 2023. Et je vous invite à regarder la vidéo de Fabien Goubet, justement, sur le média Blic, qui revient sur mon voyage dégoulinant de fromage en Suisse. On vous l'a mis en ligne sur la page internet dont on va déguster la semaine prochaine la cuisine algérienne des familles. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.